RFI, 7h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Andréane Mélard.
L'heure du journal de Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Les migrants, la Chine, la justice, Harvard, Donald Trump sur tous les fronts.
Le président américain multiplie encore et toujours les mesures et prises de parole provocatrices, mais il rencontre des résistances. Côté chinois, Pékin vient de prendre des mesures de rétorsion contre Boeing. Quant à Harvard, l'université tient toujours tête au chef d'État américain. Pas d'accalmie, pas de redout. La tension monte encore d'un cran entre la France et l'Algérie. 12 agents consulaires algériens vont être expulsés. L'ambassadeur français à Alger a été rappelé. Une escalade qui divise au sein de la classe politique française. Également dans ce journal, les pays membres de l'OMS enfin d'accord pour un plan de prévention face aux pandémies. Et puis de la musique avec le nouvel album de Roseau, trio français qui gagne à être connu.
Les droits de douane américains mettent la pression sur l'économie. Avertissement calme mais ferme de la Chine ce matin.
Et Pékin a jugé que le climat économique et mondial était devenu plus complexe, plus difficile depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le président américain s'est fait remarquer dès les premiers jours de son mandat par son rapport pour le moins décomplexé aux droits de douane. 145% de surtaxes ont été imposées par Washington depuis le mois de janvier, ce qui nécessite des mesures proactives, a affirmé le gouvernement chinois. Un terme vague, mais dont l'application est déjà bien concrète. Cléa Brothers, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Pékin vise l'un des fleurons américains puisque le pays vient d'ordonner à ses compagnies aériennes de suspendre les livraisons de Boeing et de mettre fin à l'achat de pièces d'avions fabriquées aux États-Unis.
Oui, et cette décision qui touche directement Air China, China Eastern et China Southern concerne 179 appareils attendus entre 2025 et 2027. Alors certaines livraisons finalisées pourraient être acceptées au cas par cas, mais de nombreuses commandes sont gelées pour une durée indéterminée. Alors le gouvernement chinois envisage des aides aux compagnies nationales qui louent des Boeing pour compenser l'impact financier. Le constructeur américain, déjà affaibli par des scandales de sécurité, des grèves et des retards de production, pourrait perdre 2,5 milliards de dollars. Alors face à cette suspension, la Chine explore plusieurs alternatives. D'abord, Airbus apparaît comme le grand gagnant. Pékin pourrait renforcer ses commandes auprès du constructeur européen qui dispose déjà d'une ligne d'assemblage à Tianjin, près de la capitale. Autre option, miser sur l'avion moyen courrier chinois, le Comac C-919, un appareil encore en phase de déploiement et qui dépend en grande partie de composants américains, ce qui serait un paradoxe pour Pékin qui veut justement réduire sa dépendance. Et d'autres options incluent aussi un rapprochement avec des fabricants émergents comme la Russie. Alors, cette suspension marque une escalade, vous le disiez, dans la guerre commerciale sino-américaine, avec des répercussions mondiales cette fois-ci sur l'industrie aéronautique.
Et la réaction américaine, merci Cléa, ne s'est pas faite attendre. La Maison-Blanche estime ce matin que la balle est dans le camp de Pékin et que c'est la Chine qui a besoin d'un accord et non l'inverse. Le président américain multiplie donc les lignes de combat, y compris sur la scène intérieure. Et il a désormais dans le viseur la prestigieuse université d'Harvard. Le ton était déjà monté hier lorsque l'administration Trump a gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions. Mesure de rétorsion assumée après que l'université a refusé de se conformer à certaines demandes présidentielles. Guillaume Nodin, le maître du bureau Oval, a surenchéri hier.
Peut-être Harvard devrait-elle perdre son statut d'exonération fiscale et être taxée en tant qu'entité politique si elle continue à promouvoir des maladies politiques idéologiques et inspirées ou soutenues par le terrorisme. C'est ce que Donald Trump publie sur son réseau social personnel et le président d'ajouter que le statut d'exonération fiscale est totalement conditionné par le fait d'agir dans l'intérêt public. Pour la Maison-Blanche, ce n'est pas ce que fait Harvard, qu'elle accuse plutôt de favoriser l'antisémitisme. Écoutez la porte-parole de l'administration, Caroline Leavitt.
Le président a été clair avec Harvard. Respectez la loi fédérale et vous recevrez des financements fédéraux. Malheureusement, Harvard n'a pas pris les exigences de l'administration et du président au sérieux. Et le président soulève une question intéressante. Plus de 2 milliards de dollars pour Harvard alors qu'elle a plus de 50 milliards de dollars d'avoir. Pourquoi les contribuables américains subventionnent-ils une université qui a déjà des milliards de dollars à la banque? Et nous ne devrions certainement pas financer une institution où il y a un tel antisémitisme.
Et elle demande des excuses à Harvard, mais justement, forte de sa surface financière, la prestigieuse université semble plutôt faire le choix de l'indépendance. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
La Chine, les universités, la recherche, l'équipe Trump a aussi maille à partir avec la justice.
Le président et son administration refusent toujours de se conformer à une décision d'une juge fédérale, pourtant validée par la Cour suprême, afin de faciliter le retour aux États-Unis d'un salvadorien expulsé à tort. Ce dernier a été renvoyé par erreur vers une prison salvadorienne, accusé de faire partie d'un gang. L'administration américaine a reconnu son erreur, sans pour autant essayer de la réparer. Les autorités américaines et salvadorienne se renvoient désormais la balle. Le président Nayib Bukele estime ainsi qu'il n'a pas le pouvoir de renvoyer cet homme vers le sol américain. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le nombre de mesures prises par Donald Trump peut donner le tournis. C'est en tout cas à couper le souffle, selon les mots de son prédécesseur Joe Biden il y a quelques heures. L'ancien chef d'État a tenu son premier discours public depuis qu'il a quitté son poste. Dans cette prise de parole, Joe Biden a regretté qu'il y ait eu, en moins de 100 jours, tant de dégâts et tant de destruction.
La relation entre la France et l'Algérie, elle aussi de nouveau abîmée.
Depuis plusieurs jours et malgré une brève accalmie, la tension ne cesse de monter entre les deux pays. Et elle a atteint de nouveaux sommets hier, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé l'expulsion de 12 agents consulaires algériens. Une réponse directe à la même mesure prise la veille par Alger. Sauf que les autorités françaises sont allées un peu plus loin en rappelant également leur ambassadeur pour consultation. Une décision saluée par le très droitier ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui réclame depuis des semaines de taper du poing sur la table.
Je prône la fermeté depuis des mois. Je l'ai d'abord prôné seul un peu dans le désert. Ensuite, le gouvernement en a fait sa ligne. Un État doit être fort et une nation doit être fière et respectée. J'ai toujours pensé que, avec l'Algérie, nous devions poser un rapport de force. Parce que trop souvent, le régime a profité de nos faiblesses, ou en tout cas la France a été pour lui une sorte de bouc émissaire.
Cette satisfaction fait grincer des dents à gauche de l'échiquier politique où l'on juge que ces désaccords devraient être réglés discrètement afin de ne pas jeter d'huile sur le feu. Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise.
Il faut dire stop à l'escalade. L'escalade initialement provoquée par les provocations multiples du ministre de l'Intérieur français, qui utilise un vocabulaire guerrier totalement inacceptable, un ton insupportable pour des millions de Français, binationaux ou non. Il faut désormais trouver des solutions diplomatiques pour qu'aucune situation particulière, pour qu'aucun nouvel événement ne puisse servir d'alibi à une détérioration supplémentaire et une escalade.
Au micro d'Aurélien Devernois.
RFI 5h07 à Dakar, où l'ancien président Macky Sall marche sur la corde raide.
L'ex-chef de l'État va-t-il être poursuivi pour haute trahison? C'est en tout cas une porte ouverte par un projet de résolution déposé hier à l'Assemblée nationale sénégalaise. Le pastef d'Ousmane Sonko reproche à Macky Sall sa gestion des comptes publics durant les 12 ans où il était au pouvoir. La formation s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes selon lequel les chiffres de la dette publique et du déficit budgétaire ont été falsifiés. Léa Lisa Vesterhoff, ce document pointe 7 milliards de dollars de dettes cachées.
Dans l'exposé des motifs qui accompagne la proposition de mise en accusation, le député Guy Marius Sagnia rappelle que la Constitution permet de poursuivre un président de la République dans l'exercice de ses fonctions uniquement en cas de haute trahison. Pour le député, les éléments relevés par la Cour des comptes sont suffisamment alarmants pour enclencher cette procédure exceptionnelle. Sont cités les plus de 2 milliards de francs CFA de dettes contractées en dehors de tout circuit légal. Une gestion opaque, je cite, avec de nombreuses manipulations comptables et une sous-évaluation délibérée de la dette réelle sous la présidence Macky Sall. Pour que cette mise en accusation soit retenue, elle doit être adoptée à la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par 99 députés sur les 165 qui la composent. Mais avec un parti au pouvoir, le PASTEF, qui a 130 sièges au Parlement, ce vote, quand il sera programmé, risque d'être une simple formalité. C'est la prochaine étape désormais, savoir si et quand aura lieu la plénière pour décider de l'avenir de cette proposition de mise en accusation de Macky Sall. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
L'Organisation mondiale de la santé veut croire en un accord historique.
Et pour cause, après 3 ans de discussions plus ou moins houleuses et une ultime nuit de négociations pied au plancher, les membres de l'OMS ont enfin adopté cette nuit un projet d'accord sur les pandémies. Concrètement, les pays participants veulent être mieux préparés au cas où une nouvelle crise type Covid apparaîtrait. Et puis, ils souhaitent aussi faciliter l'accès aux diagnostics et aux traitements. Ce traité légalement contraignant est donc une étape en ce sens. Mais jusqu'au bout, les pourparlers ont failli échouer et les pays membres se sont donc accordés sur un texte en demi-teinte, Jérémy Lanche.
Une expression a failli tout faire déraper, d'un commun accord, mutually agreed en anglais. Quelques mots a priori anodins, mais qui, appliqués au transfert de technologies, devaient permettre aux pays en voie de développement de produire leurs propres vaccins, traitements et autres tests, et éviter que les pays riches ne se servent les premiers. Une formule consensuelle a finalement été trouvée, au grand dam de ceux qui plaidaient pour un transfert obligatoire de ces technologies. Mais qu'importe, ne rien faire aurait été pire, a dit le patron de l'OMS, le docteur Tedros, fatigué mais visiblement heureux au moment de conclure les négociations à 4h ce matin.
Normalement, il faut 10 ans ou plus pour aboutir à un texte de ce genre. Vous vous êtes réunis, unis par un même objectif, protéger l'humanité. Vous avez marqué l'histoire et démontré le pouvoir de la collaboration entre États.
Sur le fond, le texte prévoit que l'OMS reçoive rapidement 10% de tout vaccin en cas de future pandémie. Un système d'accès aux agents pathogènes doit également être créé. Reste maintenant à adopter formellement le traité. Ce sera le mois prochain lors de l'Assemblée générale de l'OMS, à moins qu'un ou des États ne tentent d'obtenir une nouvelle concession de dernière minute. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Il plie mais ne casse pas, le trio français Roseau est de retour.
Les artistes parisiens livrent un troisième album sobrement intitulé Roseau 3, avec toujours la même volonté portée d'un titre à l'autre, faire la part belle à une musique éloignée des normes commerciales et riche d'influences variées. Les 11 titres de l'album mêlent soul, folk, jazz ou encore afrobeat, pour un résultat aussi original qu'onirique. Carmen Lonsman.
Ils arrivent en douceur pour frapper fort. Avec My People, Roseau ouvre sur un titre engagé, donnant la parole au rappeur ghanéen Ghetto Boy. Ce petit prince de l'afrobeat médite sur le sort des immigrés africains dans les rues de New York. Composé d'un DJ et programmateur radio, d'un violoncelliste arrangeur et d'un pianiste multi-instrumentiste, ce trio parisien tisse depuis ses débuts en 2012 des univers métissés et onériques, avec une affinité pour les musiques noires et les voix envoûtantes du monde. Émile Omar, fondateur du groupe.
On a essayé de créer quelque chose de singulier, d'aérien, qui tranche avec notre époque où on est bombardé d'informations, quelles qu'elles soient, des bonnes, des moins bonnes, donc quelque chose d'assez intimiste.
De la voix éthérée de la Britannique Alani, d'ascendance antillaise, à celle plus charnelle du rappeur américain d'origine panaméenne Aloe Black, en passant par le timbre rauque et sensuel de la canado-haïtienne Mélissa Lavo, Roseau navigue d'un univers à l'autre. Parlant des choses simples de la vie de manière intense et authentique, le trio parvient à créer une musique qui caresse l'âme et apporte un peu de répit dans notre quotidien agité.
Le dernier album de Roseau, pour refermer ce journal, il est 7h13 ici à Paris.
Et on en reparle de Roseau avec Carmen Lunsman tout à l'heure. Merci Léa Boutin-Rivière, vous revenez à 9h pour le grand journal de notre matinée. Pour l'heure, il est 7h13 et c'est parti pour notre tour du monde de l'actualité. Comme chaque jour, RFI matin jusqu'à 10h au programme Chronique Invité Reportage ce matin. On parle ensemble de cette brouille entre Paris et Alger. Le ton remonte entre les deux pays et pour notre invité Afrique de ce mercredi, c'est du jamais vu depuis l'indépendance algérienne. L'IS Djebaïli, franco-algérien, il a milité lors du Irak et il dirige aujourd'hui en France le collectif Algérie droit devant. Entretien avec Christophe Babouvier, retrouvé dans une demi-heure. Cette nouvelle escalade décortiquée par les journaux africains ce matin, la revue de presse, Frédéric Couteau à suivre tout à l'heure à 8h44 et on fait le point avec le service politique dans le journal de 8h. Autre sujet, autre brouille, celle entre Washington et Pékin en pleine guerre commerciale. Pékin s'en prend à l'américain Boeing, cette escalade à grands coups de taxes et ses conséquences sur les entreprises chinoises. Ce sera notre dossier du 9h ce matin. Donald Trump, lui, persiste au sujet des taxes justement, mais aussi au sujet d'Harvard, de l'université accusée par les conservateurs américains d'antisémitisme. Le président américain en guerre aussi contre la science. On en parle largement ce matin sur RFI et on y revient plus largement sur le nouveau mandat de Donald Trump avec notre invité à 8h20, l'ancien Premier ministre du Québec, Jean Charest. Au programme également la 17e édition du FEMUA en Côte d'Ivoire, également le foot et cette qualification pour Paris. Le PSG pas vraiment brillant en demi-finale donc de cette compétition. La suite des quarts, c'est ce soir. On en parle avec Antoine Grenier ce matin dans les journaux des sports RFI Matin. C'est à suivre en direct sur nos réseaux sociaux, notre YouTube Live où vous pouvez nous écrire en temps réel et tout. Nos programmes sont à retrouver sur notre site RFI.fr. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous, la une en Asie ce matin et cette décision des Maldives pour commencer. Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, en solidarité au peuple palestinien, les parlementaires des Maldives, état insulaire musulman situé au large de l'Inde, viennent d'adopter un projet de loi aussitôt promulgué par le président pour interdire l'entrée des Israéliens sur leur sol. Bonjour Combastin.
Bonjour.
Correspondant d'RFI en Inde en direct avec nous, Com. C'est un geste fort mais dont la portée sera essentiellement symbolique.
Oui, car dès juin 2024, peu après l'élection du président Mohamed Mouizou, le gouvernement avait annoncé fermer l'archipel aux citoyens israéliens et le nombre de touristes israéliens a donc déjà drastiquement chuté, seulement 1400 en 2024 contre 11 000 l'année précédente. Et pendant que la loi faisait son chemin au Parlement, de nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu dans la capitale Malé. Alors elle est boudée des touristes, mais c'est là où se concentrent les 525 000 habitants des Maldives, à 99% musulmans. Et puis ce mardi, donc la loi est finalement entrée en application pour dénoncer, je cite, « les atrocités et actes de génocide commis par Israël contre le peuple palestinien ». Elle doit rester en vigueur jusqu'à ce qu'Israël mette fin à ses opérations militaires à Gaza. Israël qui n'a jamais été reconnu par les Maldives, mais ses touristes étaient tolérés. Désormais, les relations entre les deux pays sont totalement rompues.
Et les Maldives, Koum, rejoignent ainsi la ligne politique de nombreux autres pays musulmans d'Asie.
En effet, la relation d'Israël avec les pays musulmans d'Asie, elle est moins connue et commentée que celle avec ses voisins au Moyen-Orient, mais elle n'est pas moins compliquée. La plupart n'ont aucune relation diplomatique ou consulaire avec Israël. Ils empêchent leurs citoyens de s'y rendre et les Israéliens de leur rendre visite. Et tous refusent de changer leur position tant que l'occupation israélienne se poursuit en Palestine. Et on parle de pays beaucoup plus peuplés que les Maldives. L'Indonésie, 280 millions d'habitants, n'a jamais reconnu l'État d'Israël. Tout comme le Pakistan, 250 millions d'habitants, ou le Bangladesh, séparé du Pakistan en 1971, mais qui a continué d'appliquer cette politique.
Une défiance qui ne date donc pas d'hier, mais qui s'est renforcée avec le conflit à Gaza.
Oui, et ces dernières années, on avait pu observer de très très discrets signes de rapprochement entre Israël et les pays d'Asie musulmane. Mais la guerre à grande échelle lancée par Israël sur Gaza après les attaques terroristes du 7 octobre y a mis totalement fin. Par exemple, en 2022, les États-Unis avaient discrètement poussé l'Indonésie à considérer une normalisation avec Israël dans le sillage des accords d'Abraham. Mais le processus a été brutalement suspendu après le bombardement de l'hôpital indonésien à Gaza en octobre 2023. Et puis en 2021, le Bangladesh avait retiré de ses passeports la mention valable dans tous les pays sauf Israël. Mais le gouvernement de Mohamed Yunus vient de la réintégrer sur les passeports. Donc dans tous ces pays, les dirigeants ont suivi évidemment le contexte international, mais aussi leurs opinions publiques. On a observé d'importantes manifestations de solidarité avec la Palestine et évidemment de colère contre Israël dans tous ces pays.
Merci Combastin, correspondant d'RFI en Inde en direct avec nous ce matin. Donald Trump, lui, continue de menacer Harvard. Pour lui, l'université n'aurait pas suffisamment lutté contre l'antisémitisme sur son campus. Dans le viseur du président américain, justement, la mobilisation de certains étudiants en faveur du peuple palestinien. Des menaces contre Harvard, de nouveaux droits de douane à venir. Cela fait bientôt 100 jours depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Vous avez... allez en parler ce matin avec votre invité Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada.
Oui, il est aujourd'hui membre du Conseil pour les relations Canada-États-Unis auprès du Premier ministre canadien. Les relations entre les deux voisins ne sont pas franchement au mieux. Il y a bien sûr cette guerre commerciale. Il y a aussi les menaces d'annexion de Trump, le président américain, qui a dit à plusieurs reprises qu'il voulait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Il n'en est pas question, dit Jean Charest, qui s'en prend aux méthodes de Trump. Lui qui le connaît bien dénonce ses improvisations politiques et ses mensonges. On va lui demander comment il voit évoluer la bataille commerciale et quelles conséquences cela pourrait avoir sur les prochaines élections au Canada, puisqu'il y a les élections fédérales le 28 avril. Jean Charest en ligne de Montréal tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud, rendez-vous dans une heure pour cet entretien. En France, à partir du 1er décembre prochain, les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Une décision accueillie bien sûr très favorablement par les personnes en situation de handicap, car les fauteuils roulants coûtent très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains. Et pour accéder à ce nouveau dispositif qui concerne près d'un million de Français, il faudra toutefois disposer d'une prescription médicale et le type de fauteuil devra répondre à certains critères. Alors qu'en pensent les personnes concernées ? Laurence Théo en a rencontré.
Ils sont amis, fous de sport et en situation de handicap. Voilà pour les points communs. Mais ils ne vivent pas la même situation et ne possèdent pas le même fauteuil roulant. Bruno est assis sur le fauteuil sécu, comme il dit.
Il est à sécu 3008. De base, il est payé par la sécu, mais après, moi, si je veux des options, je les paye de ma poche. Comme les phares, par exemple. Vous voyez, j'ai pas pris de phares parce que c'est plus cher.
Le handicap de Jérôme n'est pas compatible avec ce fauteuil standard. Seule sa main droite lui permet de réaliser quelques gestes limités. Le jeune homme a besoin d'un fauteuil électrique sophistiqué.
Il coûte plus de 16 000 euros. Donc c'est un fauteuil qui me permet de me monter en hauteur, de m'allonger.
Faire les transferts.
Faire les transferts, exactement. De pouvoir me déplacer en toute autonomie.
Jusqu'à aujourd'hui, faire une demande de fauteuil n'était pas une mince affaire.
C'est ça, il faut faire une demande. Et encore une fois, il y a des inégalités. Donc les dossiers peuvent prendre entre 6 mois et 2 ans.
Un fauteuil roulant coûte entre 500 et 10 000 euros. Un prix qui augmente pour les versions électriques entre 3 400 et 30 000 euros. Or aujourd'hui, l'assurance maladie n'en rembourse qu'une partie, jusqu'à 5 200 euros maximum. Le fauteuil de Jérôme coûte 16 000 euros, une grosse somme qu'il a fallu payer.
Heureusement que je travaille parce que voilà, il y a une mutuelle qui me permet de pouvoir compenser et de pouvoir m'acheter ce fauteuil. Sans mon travail et sans cette mutuelle, ça aurait été très compliqué. J'aurais dû aller chercher des financements privés.
L'annonce que les fauteuils roulants soient remboursés intégralement dès le 1er décembre est une bonne nouvelle, mais suscite des interrogations car il s'agit de modèles figurant sur une liste bien précise. Paul, entraîneur du club de foot fauteuil de Nanterre.
Au premier abord, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, on veut plus de détails. Parce que d'accord, on rembourse le fauteuil, mais est-ce qu'on rembourse tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va avec ?
Et ça peut coûter cher ce qui va avec ?
Alors oui, bah ça peut faire doubler le prix.
Bien calé dans son fauteuil, Mohamed se pose une autre question.
Dans chaque fauteuil aussi, il peut y avoir des problèmes, que ce soit des problèmes de roue à changer, problèmes de batterie, etc. etc. Et aussi, j'aimerais savoir si le gouvernement a pris ça en compte. Parce que moi, par exemple, là, j'ai eu un problème de batterie. Et après 6 mois seulement, les batteries n'ont plus la garantie. Donc si après 7 mois il y a un problème de batterie, c'est de sa poche et ça coûte minimum 500 euros.
Bruno, Mohamed et Jérôme sont pressés de rejoindre le gymnase pour un match de foot-fauteuil. Les fauteuils de sport devraient être également remboursés.
Laurence Théo pour ce reportage RFI 7h23 à Paris. Lors de notre question d'environnement, bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
On va parler ce matin d'agriculture au naturel et on s'interroge avec vous. Quelle est la richesse insoupçonnée de nos excréments ?
Oui, désolé Andréane, on va être un peu pipi-caca ce matin, mais ce n'est pas sale. C'est pour le bien de l'agriculture, oui, on va parler d'engrais naturels. Savez-vous, Andréane, que nos excréments sont pleins de phosphore ? Et le phosphore ? Eh bien, les plantes, elles adorent pour leur croissance, au même titre que l'azote et le potassium. Explication de Christophe Gatineau, il est agronome.
C'est un des rouages de la réalisation de la photosynthèse. Donc, si les plantes n'ont pas accès au phosphore, eh bien, elles sont ce qu'on appelle victimes de nanisme. C'est-à-dire, eh bien, elles vont certes pousser, mais pousser pour se reproduire au plus vite. En tout cas, ce ne sont plus des plantes qui nourrissent.
Voilà, sans phosphore, pas d'agriculture nourricière. Et en agriculture conventionnelle, on utilise justement des engrais à base de phosphate.
Mais il y a donc aussi une solution plus naturelle.
Oui, vous, moi, tout le monde produit du phosphore. Et c'est ce que défend Christophe Gatineau, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ne tirons plus la chasse ». Vous savez, on trouve ça normal d'utiliser l'eau du robinet pour les toilettes et évacuer ses déjections. Alors que 9% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, en France, une personne chaque jour gaspille 30 litres d'eau potable, rien qu'au WC. Alors pourquoi envoyer nos excréments dans les égouts alors qu'on pourrait les recycler ?
On est une véritable usine à engrais agricoles. Nous en produisons de quoi couvrir un quart des besoins de notre agriculture. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben on le jette en fait. On tire la chasse et en fait, ce que nous excrétons, ben, c'est le produit digéré de ce que nous avons mangé. En dehors des poissons et de quelques crustacés, ben, on mange des plantes ou alors des animaux qui ont mangé des plantes. Les éléments nutritifs, ils doivent revenir là où ils ont été prélevés, c'est-à-dire dans le sol.
C'est la fameuse leçon du chimiste français Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Et ce sont en fait des méthodes ancestrales.
Oui, elles sont d'ailleurs encore utilisées par de nombreux paysans dans le monde qui n'ont pas les moyens d'acheter des engrais chimiques. Les déjections servent à enrichir le sol, l'humus, sous nos pieds, il y a de la vie, il y a de l'activité, Christophe Gatineau.
Le temps que les matières fécales se minéralisent, c'est-à-dire se transforment en éléments nutritifs, c'est le système naturel, ben, par les micro-organismes et puis par toute la faune du sol et en particulier par les vers de terre. On n'a rien trouvé de mieux depuis la naissance de l'agriculture.
Et vous nous dites, Florent, aussi que le pipi a son importance.
Oui, notre urine est pleine d'azote et ça aussi les plantes en ont besoin. Alors bien sûr, il y a une petite barrière psychologique quand on passe à table. Christophe Gatineau nous parle de ces carottes qu'il fait pousser et qu'il sert à ses invités.
Ils aiment le goût, en fin de compte, elles ont une très belle couleur, belle texture sous la dent et tout. Et je leur dis, bah oui, elles ont été élevées avec les urines de la famille. C'est le choc. C'est rigolo. On dit, oh, ça doit être dégueulasse, ça doit être rempli de microbes. En revanche, si je leur avais dit qu'elles avaient été élevées aux engrais chimiques et aux pesticides, ça aurait pas posé de problème. C'est ça qui est curieux.
En fait, c'est comme le fumier produit par les animaux et utilisé pour enrichir les sols. Ça ne pose pas de problème. Eh bien, nos déjections, c'est pareil. C'est du fumier humain. C'est naturel. C'est gratuit. C'est cacastucieux.
Et c'est plein de promesses. Merci, Florent Guignard. C'était la question d'environnement sur RFI. Tout de suite, un petit peu de musique avant le retour de l'info. El Gato Negro ce matin avec Hassan Boup et le titre Mundoke sur notre playlist ce mois-ci. Ghetto Negro avec Hassan Boup et le titre Mundokai s'est à retrouver sur la playlist RFI sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site rfi.fr. Dans une minute, le journal.
Société Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la leptospirose, une maladie bactérienne transmise par les rats.
Demain,
allergie, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
la parentalité positive a le vent en poupe. Peut-on punir son enfant sans violence? Comment dire non avec bienveillance?
Demain,
à quoi ressemble le matin des gens qui se lèvent tôt? Est-ce un moment magique ou contraignant et éprouvant?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.